On s'en va en Ontario maintenant, parler avec Julien Caillouette, rédacteur en chef chez Franco Presse et chroniqueur à Canal M pour avoir les plus fraîches nouvelles du Canada francophone. Bonjour Julien.
Bonjour Hélène.
Content de vous retrouver en cette journée du mois de septembre.
J'espère que vous avez passé des belles vacances.
Ah oui, oui, ça s'est bien passé. Et puis là, on se relève les manches et puis c'est la rentrée. Et on commence pour cette chronique de septembre avec le projet de loi C-21.
Oui, qui ravive les tensions identitaires du côté des Métis au Manitoba. C'est qu'il y a un désaccord qui se développe en ce moment au sein de la Nation Métis de la Rivière-Rouge, là, qui est le nom de la Nation des Métis au Manitoba. Le projet de loi C-21, il est actuellement en deuxième lecture au Parlement fédéral. Puis ce projet de loi-là va mettre en place un traité d'autogouvernance pour les Métis de la Rivière-Rouge. L'interlocuteur principal du gouvernement dans ce dossier-là, c'est la Fédération des Métis du Manitoba. Par contre, le projet ne fait aucune mention de la langue française ni de la culture distincte des Métis francophones qui sont représentés par l'Union nationale Métis Saint-Joseph du Manitoba. L'Union dit qu'elle ne veut pas nécessairement changer ou modifier le traité, mais elle aimerait être davantage pris en considération par la Fédération des Métis. Elle semble, elle, agir sans tenir trop compte des particularités des différentes langues et nations qui composent son association. Parce que, comme nous dit David Chartrand, le président de la Fédération, il n'y a pas juste des francophones dans la Fédération, il y a aussi des communautés qui parlent métis et d'autres langues autochtones. Le projet de loi va être étudié en comité cet automne. Là, donc, l'Union nationale des Métis du Manitoba va pouvoir aller témoigner devant le comité et on va sûrement vous en reparler à ce moment-là.
À suivre, donc. Triste nouvelle, il y a eu un incendie récemment, l'incendie de l'église de Saint-Simon, qui est en quelque sorte un avertissement pour les autres paroisses.
Oui, c'est le Cadi Nouvelle qui a fait un peu cette analyse-là. L'église de la communauté de Saint-Simon, là, qui se situe au sud de Caraquet, sur la péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, a été incendiée la semaine dernière. Il s'agirait d'un incendie criminel. Quelqu'un a même été arrêté et accusé pour avoir déclenché cet incendie-là. Une église totalement en bois, donc on n'a pas pu la sauver. Elle a brûlé beaucoup trop rapidement. Les pompiers n'ont pas pu arriver assez vite. La Cadi Nouvelle nous rappelle que Saint-Simon, c'est la troisième église qui est incendiée en quelques années dans la région. Il y a d'abord eu l'église de Bas-Caraquet en 2018 qui a complètement été détruite, puis celle de Grand-Anse en 2024 qui a été endommagée, mais qu'on a pu intervenir rapidement, donc on a pu la sauver, celle-ci. À l'ouest de Caraquet, il y a la communauté de Bertrand qui possède aussi une église en bois. On dit que dans cette église-là, l'acoustique est incroyable, fait que ça attire des concerts de toutes sortes, là, aussi bien religieux que non religieux. On dit qu'on est conscient qu'on est limité dans ce qu'on peut faire pour protéger des églises en bois. Mais c'est aussi le cas, puis c'est aussi le cas dans d'autres églises du Canada. Ce n'est pas les seules églises en bois dans le pays, évidemment. Puis malgré les moyens de protection qu'on peut avoir, comme des détecteurs de mouvement, des gicleurs et détecteurs de fumée, évidemment, ça peut être insuffisant pour sauver une église en bois parce que ça brûle beaucoup plus vite qu'une église en pierre. Donc, encore là, il y a des réflexions à avoir.
C'est sûr. Le recrutement à l'hôpital de Hearst soulève des questions. On en parle dans le Nord.
Ouais, je vous rappelle que Hearst est une petite ville de 5000 habitants environ dans le nord de l'Ontario qui est à 85% francophone, donc très majoritairement francophone. Le journal Le Nord, au cours de la dernière année, dit qu'il y a quatre médecins et spécialistes qui ont, ainsi que le directeur général, qui ont été recrutés, qui ne seraient pas bilingues, qui parleraient seulement anglais. Donc, surtout les médecins ici, ne peuvent pas servir les patients en français dans une communauté majoritairement francophone. Le journal a essayé de poser des questions à l'hôpital. Ça leur a pris du temps à avoir des réponses, mais ils ont finalement eu un communiqué lundi l'hôpital répond que sa désignation officielle en vertu de la loi sur les services en français demeure en vigueur et que la direction générale a seulement un rôle administratif et ne fournit pas de soins de première ligne, donc ne voit pas nécessairement d'enjeu du fait qu'elle ne parle pas français. Par contre, la réponse ne donne pas d'indication sur ce qui va advenir de la langue de travail dans l'hôpital. pour un personnel majoritairement francophone qui a maintenant affaire à une direction qui parle seulement en anglais. Du côté de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, le président Fabien Bert, qui est originaire de Hearst, lui prend la nouvelle un peu comme un affront et attend des meilleures explications.
Par ailleurs, Julien, la séparation se vit aussi dans la langue.
Oui, c'est le cas des francophones de la Colombie-Britannique qui ont maintenant un outil de plus pour les parents qui se séparent. Ils ont maintenant accès au cours « Être parent après une séparation » dans la langue française. Le cours fait partie d'un processus judiciaire de la Cour provinciale qui vise à aider et guider les parents qui se séparent. Auparavant, ce cours-là était seulement offert en anglais et en Punjabi, ce qui pouvait compliquer le parcours juridique des parents qui ne parlent pas français. Dans l'article 11, aussi, il y a un stagiaire en justice qui a suivi le cours et qui dit que la qualité du français dedans est très bonne. Les gains pour l'accès en justice en français se font un petit pas dans le système judiciaire de la province de la Colombie-Britannique. Par exemple, c'est seulement depuis le 1er décembre 2024 qu'il y a une disposition pour les langues officielles qui est entrée en vigueur et qui permet d'entreprendre des procédures de divorce en français devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique. Maintenant, on peut déposer des documents et des preuves dans cette langue-là. Ce n'était pas possible avant le 1er décembre 2024. Pour les parents qui traversent déjà cette épreuve difficile-là de la séparation, mais c'est un avantage de ne pas avoir à se soucier de suivre un cours qui est offert dans une langue qu'ils ne maîtrisent pas parfaitement. Donc, comme je disais, on avance à petits pas.
Trouver un toit dans le Nord, c'est une mission presque impossible.
Oui, c'est les trois médias, médias francophones des territoires qui ont un article commun sur ce sujet-là. Apparemment, les capitales des trois territoires font face à des défis très particuliers en matière de logement. C'est selon un récent rapport de la Société canadienne d'hypothèques et de logement. À Whitehorse, la capitale du Yukon, le taux d'inoccupation a légèrement augmenté au cours de la dernière année, mais il reste quand même très bas, c'est de 1,9 %. J'ai augmenté, c'est qu'avant, il était de 1,3 %. Il est rendu à 1,9 % d'inoccupation. À Yellowknife, c'est exactement l'inverse qui est arrivé. C'est passé de 1,9 % à 1,3 %, donc encore un peu moins de logements disponibles. Puis avec Iqaluit, dans le Nunavut, la situation est très préoccupante parce que le taux d'inoccupation est de 0,3 %. J'ai d'ailleurs, pour un autre sujet, j'ai parlé à la directrice de la commission scolaire francophone là-bas. Elle n'a pas de problème d'embauche de professeurs, mais elle a un problème pour les accueillir, pour les héberger. Elle a engagé une enseignante pour venir travailler et enseigner à l'école, mais l'enseignante ne peut pas venir parce qu'elle n'a pas de logement pour elle, même si les enseignants ont priorité pour les logements disponibles selon un système dans la capitale. Il faut donc qu'elle attende qu'il y ait un logement qui se libère avant de pouvoir venir travailler à Iqaluit. Par contre, le coût de la vie qui est déjà élevé dans les territoires a fait en sorte que le prix des loyers, le prix moyen des loyers, n'a pas augmenté autant que dans le reste du pays. Là, ça demeure sous la 7,1 % qui est enregistré dans les autres provinces. Puis, comme vous pouvez l'imaginer, ce n'est pas simple de régler ce problème-là parce que les trois capitales sont relativement éloignées, spécialement Iqaluit, pour laquelle il n'y a pas de route pour s'y rendre. Donc, c'est plus difficile d'y acheminer des matériaux, puis ça coûte plus cher de construire des logements.
Y en a-t-il des problèmes à régler, hein?
Ah, oui.
Parlons cinéma. Le cinéma francophone à la conquête de nouveaux marchés au TIFF Festival de Toronto.
Justement, ici, on parle d'une solution, peut-être l'Alliance des producteurs francophones du Canada qui représente les producteurs audiovisuels francophones de l'extérieur du Québec. Va avoir une délégation pour la première fois au Festival international du film de Toronto dans le cadre d'une nouvelle initiative qui s'appelle Le Marché. Il y a des délégations de partout dans le monde qui vont participer à cette initiative-là. L'Alliance des producteurs francophones du Canada, elle, s'est associée à 8 producteurs de la France et 9 producteurs du Canada qui sont situés en Ontario, en Colombie-Britannique, au Manitoba et en Atlantique pour y participer puis tenter de vendre leur production. C'est pas totalement nouveau pour l'Alliance de participer à des événements internationaux comme ça, mais comme je disais, c'est la première fois qu'elle le fait au TIFF. Comme le dit la directrice Carole-Anne Pilon, il y a de moins en moins d'argent pour la production. Il faut donc aller chercher des sous ailleurs pour les faire. Heureusement, il existe un appétit mondial grandissant pour les contenus en langue étrangère, nous dit-on. Puis les producteurs sont moins limités par la géographie et le public dans ces circonstances-là. Mais le contenu francophone doit encore trouver son public à l'extérieur du Canada. Donc, c'est un peu ce qu'on s'en va faire dans ce cas-ci. Je vous rappelle que le TIFF va avoir lieu du 10 au 20 septembre.
Oui, ça s'en vient très bientôt. Merci beaucoup, Julien, pour cette chronique. On se retrouve mercredi prochain.
Avec plaisir.